Malgré ce mouvement dans sa vie, toutes ses relations et tous ses amants, elle a le cœur sec. Et donc, elle vient puiser de l'eau à ce puits, et vous savez, elle rencontre Jésus, qui est là, qui est assis, qui se repose d'ailleurs. Ses disciples sont partis aller chercher de quoi manger dans la ville. Et il y a cette rencontre. Et Jésus qui... Et ça nous synthétise bien ce qu'est l'adoration, dont parle d'ailleurs celle qui est la docteur de l'Église en matière d'adoration, Sainte Thérèse d'Avila. Mais la Samaritaine, en fait, c'est une application de... quand Thérèse d'Avila parle de comment adorer, de comment aller puiser l'eau, cette source à la source divine, bien sûr, c'est une référence directe à la Samaritaine. Et Jésus qui... Alors, c'est ça, vous voyez, ça commence par quoi, cette rencontre de la Samaritaine et de Jésus? Ça commence par une question de Jésus. C'est Jésus qui prend l'initiative. Voyez. Parce que le plus dramatique dans notre affaire de monde contemporain, le plus dramatique dans notre vie, c'est qu'on a soif, mais on ne sait même pas de quoi on a soif. Les anges sont parmi nous. On a soif, mais on ne sait même pas de quoi on a soif. On est mal avec nous-mêmes, mais on ne sait même pas de quoi on est mal. On ne sait pas mettre de mots dessus. Et donc c'est Jésus qui prend l'initiative. Parce que Jésus, il connaît notre cœur plus que nous-mêmes. Jésus, il connaît nos aspérités. Il connaît nos obscurités. Il connaît nos duretés de cœur. Il connaît nos bunkers intérieurs. Et donc c'est Jésus qui prend l'initiative. Il voit dans le cœur de Jésus. Et il dit à cette femme qui vient puiser, « Donne-moi à boire. » Jésus, il n'est pas en train de jouer à cache-cache avec cette femme. Quand il dit « Donne-moi à boire », c'est qu'il attend vraiment que cette femme lui donne à boire. Et là, il va y avoir un quiproquo, voilà, et la femme est très surprise de cette question. Mais Jésus va aller rapidement au but. Il a dit, si tu savais celui qui te parle, si tu le connaissais, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Vous voyez, c'est Jésus qui a l'initiative. C'est Jésus qui, en fait, nous éclaire sur nos soifs profondes. Mais qui, en fait, qui répond à sa soif, à lui, j'allais dire, qui est encore plus profonde. Et ce « j'ai soif de Jésus », vous savez qu'il, en fait, anticipe un autre « j'ai soif » dans le même évangile de Jean. Au chapitre 21, Jésus en croit « j'ai soif ». En anglais, c'est « I thirst ». C'est ce que les missionnaires de la charité, les filles de Mère Teresa, ont dans leur chapelle ce « j'ai soif de Jésus » avec la croix. Et les sœurs de Mère Teresa, vous savez qu'elles adorent tous les matins avant de commencer leur journée de labeur extrêmement difficile. Elles ne chôment pas les sœurs de Mère Teresa dans des conditions de pauvreté extrême. Et elles ont cette heure d'adoration. Et derrière le Saint-Sacrement, le « j'ai soif de Jésus ». Quand on va adorer Jésus, on va au puits. Et c'est d'abord lui qui nous demande à boire. Alors c'est quoi ce « j'ai soif de Jésus » ? Voyez ? Et ça, c'est la grande différence avec toutes les spiritualités du monde oriental, du bouddhisme, de l'hindouisme, où il y a de la sagesse. Il y a de la sagesse. On ne peut pas dire qu'il n'y en a pas. Mais le bouddhisme et l'hindouisme, en fait, c'est une sagesse humaine. On va aller creuser pour aller rejoindre, non pas la source divine, mais pour aller rejoindre les énergies cosmiques. Et finalement, c'est à notre initiative, et c'est une technique. Il y a une technique de méditation transcendantale. Là, c'est pas la même chose. Il n'y a pas de technique. Parce que on répond d'abord à une initiative de Dieu. C'est la grande révélation chrétienne. J'ai soif. Et c'est Jésus qui le premier le dit. J'ai soif. Alors, de quoi as-tu soif, Jésus ? Est-ce que quand vous allez à l'adoration, est-ce que vous pensez, est-ce que vous vous rappelez que vous répondez d'abord à une invitation de Jésus de calmer sa soif à lui ? De quoi est la soif, Jésus ? J'ai soif. Il dit ça à la Samaritaine, il dit ça sur la croix, en regardant le monde. J'ai soif. Eh bien, Jésus a soif de l'amour du cœur humain. Vais-je trouver une place dans ton cœur pour m'y reposer? J'ai soif. Et Jésus a soif de ce cœur humain dont il connaît toutes les blessures, dont il connaît tous les ravages, dont il connaît toute la violence, dont il connaît toutes les ténèbres. Jésus connaît votre cœur, il sait que votre cœur est pire que la pire des étables de Bethléem. Votre cœur n'est pas propre. C'est une certitude. Et c'est là que Jésus veut trouver son repos, calmer sa soif. J'ai soif. Quand vous avez du combat pour lâcher vos affaires, quand vous êtes pris par vos préoccupations, regardez le Saint-Sacrement. Ou même quand vous hésitez à y aller, vous êtes un peu lassé. Il y a ce phénomène-là, hein, quand on est adorateur, hein, de la lassitude. N'est-ce pas le psaume qui dit que le cœur de l'homme est comme l'herbe des champs. Elle pousse ce matin et le soir, elle se fane. Quand vous êtes fané, quand vous n'avez même plus le désir d'aller adorer, rappelez-vous de ce « j'ai soif de Jésus ». Il vous attend pour lui donner à boire. Il a soif. Dans la tradition carmélitaine, Thérèse d'Avila, et puis repris par Thérèse de Lisieux, son premier enfant, Thérèse de Lisieux, c'est Pranzini. Elle dit, je vais calmer la soif du cœur de Jésus en lui apportant cette âme. Je vais apporter l'âme de Pranzini à Jésus. Et elle a supplié pour l'âme de Pranzini. Elle a apporté l'âme de Pranzini à Jésus. Elle a calmé la soif de Jésus en lui apportant cette âme. Et Pranzini, comme vous le savez, avant d'avoir la tête guillotinée, eh bien, a demandé à embrasser Jésus. Voilà. Avec la prière de cette petite carmélitaine. Enfin, qui n'était même pas un carmélitaine. Vraiment. Et vous avez ce rôle-là de vous tenir devant Jésus pour calmer sa soif des âmes. Déjà de la vôtre, puis de celle du monde. J'ai soif. Et je peux vous dire que Jésus a plus soif en 2019 qu'au 16e siècle, ou qu'au 1er siècle. Il a encore plus soif. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus d'âmes qui souffrent. De plus en plus d'âmes qui se meurent. Et Jésus a soif de ces âmes. Donc, c'est le premier aspect. On vient pour adorer, c'est d'abord répondre à l'appel de Jésus pour lui donner à boire nos cœurs humains, le cœur de l'humanité. De nos enfants, de nos amis, de nos frères et sœurs, et spécialement ceux qui ont abandonné leur foi chrétienne. On est là devant Jésus pour cela, comme les sœurs de Mère Teresa qui lui apportent à Jésus tous ces pauvres mourants, lépreux, abandonnés. Tous les matins, elles sont là. Pour lui apporter Jésus, ses cœurs, ses vies. J'aime beaucoup rappeler que, et c'est la deuxième et dernière partie de ma causerie, je ne vais pas être trop long parce que si je suis branché, c'est fini. Mais j'aime beaucoup rappeler que l'adoration, c'est rentrer dans le mouvement du Fils et du Père. Dans l'hostie consacrée, c'est Jésus vivant, le corps de Christ. Et qu'est-ce que fait Jésus ? Jésus est immobile. Visiblement, il ne bouge pas. Mais il ne cesse de s'offrir au Père. Il est en perpétuelle offrande de son corps au Père. Père, ce que tu m'as donné, je n'en ai perdu aucun. Ils étaient à toi, Père, et tu me les as donnés. Parce que moi, je me donne à toi. Oui, Père, tout ce qui est à moi est à toi. Tout ce qui est à toi est à moi. Devant le Saint-Sacrement, on est devant cette réalité de la relation divine entre le Fils et le Père. Un don total et perpétuel. Jésus dans le Saint-Sacrement. Et c'est pour ça que l'adoration eucharistique est un acte liturgique. C'est pas la même chose, et c'est vrai, il faut quand même le dire, c'est pas la même chose de faire oraison devant un tabernacle fermé, et d'adorer devant le Saint-Sacrement exposé sur l'autel. Parce que s'il est justement exposé sur l'autel, c'est en fait, et c'est l'enseignement de l'Église, c'est le prolongement de l'offrande eucharistique. C'est la perpétuation du sacrifice eucharistique de Jésus. Et Jésus, à qui il s'offre au Père. La prière eucharistique, je vous le rappelle, et ça on l'a peut-être oublié, parce que à force d'être de voir le prêtre face à face, on a tendance à oublier que le prêtre, il n'est pas tourné vers les fidèles, il est tourné vers le Père. La prière eucharistique, elle n'est pas adressée aux fidèles. Elle n'est pas pour les fidèles, elle est pour le Père. Elle s'adresse au Père. Et Jésus, dans le Saint-Sacrement, sur l'autel, il est tourné vers le Père. Et en se tournant, en s'offrant vers le Père, il élève, il offre le monde au Père. Et donc, devant le Saint-Sacrement, on est devant cet acte d'offrande perpétuelle de Jésus pour le monde. C'est la messe perpétuelle. Jésus, même si vous êtes endormi, même si vous passez votre heure d'adoration à chasser les mouches, un petit regard vers l'hostie et dit « Jésus, t'es quand même super. Pendant toute cette heure où moi j'étais distrait, toi t'as pas arrêté de t'offrir à ton Père pour moi, pour le monde. » Cette réalité-là de ce mouvement d'amour entre le Fils et le Père, c'est l'exposition du Saint-Sacrement. C'est l'adoration eucharistique. C'est pour ça qu'elle est eucharistique, justement. Et je finirai avec Matthieu 11, 25, qu'on vient à peine de lire à la messe. Jésus, rempli de l'Esprit-Saint, se mit à crier « Père, je te rends grâce de ce que tu as caché cela aux sages et aux intelligents et que tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, ainsi tu l'as voulu dans ta bonté. Nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et le Fils nous révèle cette intimité avec le Père. Et lorsque nous contemplons Jésus dans l'Eucharistie, il y a ce mouvement perpétuel. En fait, ça paraît immobile, mais en fait, là est le vrai mouvement. Du don d'amour. Alors oui, c'est aussi une école de petitesse, l'adoration eucharistique. C'est vrai. Il faut accepter. Acceptez. Venez à moi, dit-il juste après cette exultation. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous soulagerai. Mettez-vous à mon école et vous trouverez le repos pour vos âmes. Cette école du don. Alors oui, dans l'adoration, voilà, il y a des moments où je vais donner aussi à Jésus mes fardeaux. je vais me donner moi-même. Mais faites-le, et faites-le vite, pour après rentrer dans le silence de la contemplation. Et puis, enfin, en conclusion, regardez Jésus. Et s'il y a besoin, reprenez un petit texte de l'Évangile que vous aimez bien. Ça, c'est un conseil de Thérèse d'Avila. Si vraiment vous êtes dans le combat devant Jésus, vous êtes arraché à sa présence par les liens de ce monde, vous êtes envahi de pensées mauvaises, vous êtes flagellé par vos propres péchés, eh bien, prenez l'Évangile et mettez votre imagination au service de la contemplation de Jésus dans une scène simple, parce que vous aimez bien, et ça peut être toujours la même, peu importe. Et ainsi, par la parole de Dieu, vous serez ramenés à Jésus et arrachés au pouvoir des ténèbres. Thank you.